du père Laurent Pilon, donc un clerc de Saint-Viateur. Il est décédé il y a 4 ans, en 1993. Il était missionnaire en Chine de 1940 à 1953. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Laurent Pilon est né à Saint-Polycarpe, dans le comté de Soulanges, hein? Une région de Valleyfield, quoi. C'est le pays de Pierre Cholette. Vous savez, cette histoire, cet odyssée qui a été racontée dans L'Enfant perdu et retrouvé, on lisait ça autrefois. Et c'est encore, c'était réédité, c'est un livre qui a enchanté la jeunesse dans ce temps-là. Hein? Et Laurent Pilon était l'aîné des 8 enfants d'Arthur Pilon et d'Alida Bessner. Sa mère avait été maîtresse d'école pendant 5 ans avant son mariage, ce qui l'avait bien préparé, évidemment, pour éduquer ses propres enfants. La condition de l'institutrice de campagne dans les années 1905-1910, c'était très peu reluisant. Je sais pas si vous êtes au courant, c'était incroyable, les salaires de famine, la difficulté, c'était terrible, et avec un salaire annuel de 125 piastres, comme on disait, vous vous souvenez, au lieu de dire dollars, on disait des piastres. Elle avait charge d'une 40aine d'élèves, 40 élèves qui étaient répartis dans les 6 années du cours primaire. Puis en plus de ça, croyez-le, croyez-le pas, elle devait chauffer l'école à ses frais, avec les 180 piastres, comme on dit. De son expérience scolaire, bien, Alida Bessner, qui va devenir Madame Pilon, avait retenu les 2 principes de base de toute bonne éducation, la fermeté, la tendresse. Elle s'est mariée dans ces conditions-là. Alors, toute son action éducative auprès de ses propres enfants était marquée de cette bonne pédagogie équilibrée, selon laquelle les jeunes apprennent le respect des parents tout en se sentant aimés d'eux. Hein? Apprendre le respect de ses parents en se sentant aimés dans une famille intelligente. Dès la petite enfance, notre Laurent Pilon est initié à la connaissance, évidemment, de Jésus, puis de la prière. On apprenait le nom de Jésus après avoir appris papa et maman, et peut-être même avant. Sa mère ne manquait aucune occasion de soumettre ses enfants aux influences religieuses, et c'est ainsi que tout jeune, cet aîné de la famille, a reçu la bénédiction d'un prêtre que le pape Jean-Paul II a béatifié en 1988. D'ailleurs, Laurent Pilon, le père Pilon, a raconté ce fait quand on lui a demandé de raconter un peu sa vocation. Il écrit « Lorsque j'étais encore au berceau, un vieux père franciscain, Frédéric Jansson, vous savez, c'est le bon père Frédéric, hein? Frédéric Jansson, titulaire du commissariat de la Terre Sainte au Canada, qui parcourait les campagnes pour quêter en faveur de son œuvre, s'amena chez nous. Ma mère l'a reçu respectueusement et surtout lui a demandé une bénédiction spéciale pour son premier-né. Le père m'a béni, donc, en traçant une croix sur mon front, puis, s'adressant à ma mère, il l'a regardée et lui a dit, « Il sera prêtre un jour. » Celui que les gens appelaient le bon père Frédéric est mort depuis longtemps. Sa prédiction est-elle en train de se réaliser? Maman m'a souvent raconté cette anecdote. Et puis, il a été ordonné prêtre, hein? Évidemment. Et même béni de la main d'un futur bienheureux, bien le jeune Laurent Pilon se permettait, comme tous les enfants de son âge, des petites fredaines. Ainsi, on raconte qu'un jour, le curé de la paroisse passait devant la maison vêtu de sa longue robe noire, la grande soutane noire. Hein? Et Laurent a saisi son fusil de bois et s'est écrié « Je te tire, vieille !» C'est terrible, hein? Alors, sa mère a entendu ça, elle n'a pas du tout été contente. Il a eu droit à ce qu'on appelle une réprimande appropriée. Probablement une certaine fessée, j'imagine. Plus tard, Madame Pilon racontait cette incartade de son fils Laurent et s'en amusait beaucoup. Les années ont passé, 6 enfants forme maintenant toute la maisonnée. Laurent termine son école primaire, puis une question difficile se pose. Comment peut-on envoyer ce jeune homme au collège? C'est que dans les années 27-30, il y a une crise économique qui sévit partout le Canada, dans toute l'Amérique du Nord, et les temps sont durs. Hein? Le chômage est généralisé. J'ai connu un peu ça, je suis né en 26, je me souviens, 1930-1931, quand notre pauvre petite bonne est partie, la voiture est partie, il restait presque plus rien pour vivre. Dans les villes, on servait des soupes populaires, les gens faisaient de longues queues hein, pour aller manger de la soupe. Il y avait ce qu'on appelait le secours direct pour venir en aide aux populations affamées. Puis les gens de la campagne ont eu plus de chance puisqu'ils avaient une ferme, un jardin, ils avaient de quoi se nourrir, mais l'argent est rare. Hein. Placer un garçon au collège, ça présente une somme de $20 par mois, c'est énorme. Et heureusement, un oncle curé paie le chèque mensuel. Cette aide, ajoutée aux économies réalisées à coup de sacrifice, va permettre à Laurent Pilon de compléter son cours classique en 1934. Et les 7 années passées au collège Bourget, Laurent les a appréciées à Rigaud. Il a aimé son temps de collège. Tout en s'appliquant à ses études, bien, il sait se ménager des espaces de détente, évidemment, les après-midi de congé, pendant que les collégiens jouent sur les à la balle molle, là. Lui, son bonheur, c'est plutôt d'escalader la montagne, seul ou avec quelques amis. Quand les parents viennent le visiter, il est courant que l'on attende un bon moment avant que celui qu'on appelait le jeune homme des bois ne soit rejoint. Laurent Pilon a eu vraiment un culte pour les arbres. Et à Saint-Polycarpe, il avait placé bien en vue une inscription peinte de sa main, « Plantons des arbres ». Il était de l'avant-garde dans ce plan-là, hein. Et dans la montagne de Rigaud, mais les grands arbres dont les pieds sont solidement grippés au sol et dont les branches élancées, c'est très beau là-bas, ça force notre regard, hein. C'est magnifique. Et bien, les arbres inspiraient ses méditations solitaires. Un peu comme Saint-Bernard. Vous savez, Saint-Bernard qui disait, j'ai plus appris en regardant les arbres qu'en lisant des livres. Les arbres savent vivre, hein. Ils bousculent pas ni leur saison ni leur croissance. Il y a un entêtement dans un arbre, c'est de durer. Pour ce faire, l'arbre prend son temps, plus de ça. Sa croissance est continue. L'arbre nous apprend la patience. Et cette patience, ben, le jeune Laurent Pilon en fait provision. Parce qu'il va avoir un long chemin à parcourir avant de parvenir à l'idéal de vie auquel il rêve. Durant les grandes vacances, les travaux de la ferme donnent à ce jeune collégien l'occasion de mettre ses forces, sa contribution. En ce temps-là, les appareils narratoires, la machinerie mécanique n'avaient pas beaucoup d'espace hein, sur des fermes. Alors tout se faisait à bras d'homme, et après un été consacré aux travaux des champs, Laurent Pilon retournait au collège avec un teint bronzé puis une santé gaillarde. C'était un très beau bonhomme, hein. Il y a des photos de lui. Les filles ont dû pleurer quand il est entré. Au printemps 1934, les 30 finissants du cours classique du Bourget entrent en retraite fermée. Il y a un temps de réflexion, de prière, durant lequel ces jeunes, d'à peu près 18-19 ans, vont faire l'option définitive à propos de l'orientation de leur vie. Et seul à seul avec Dieu, face à sa conscience, et avec l'aide d'un conseiller spirituel, les jeunes gens faisaient chacun leur option, et quand arrive le tour du dévoilement, sur les 30 finissants du collège Bourget, 10 annoncent leur intention de vie religieuse chez les clercs de Saint-Viateur, dont Laurent Pilon. Et pourquoi? Parce que les clercs Saint-Viateur sont les professeurs, c'est eux qui dirigent le collège de Rigaud, collège Bourget. De ce nombre, après le décès de Laurent, il y en a encore quelques-uns qui sont là. Étienne de Blois, Lauréat Cholette, Calix Préfontaine. Heureux de son choix de carrière, Laurent a écrit à ses parents une longue lettre. J'ai connu l'Éviateur, j'ai aimé l'Éviateur, et je veux, à mon tour, devenir viateur. C'est comme ça qu'on appelle souvent, de façon populaire, les clercs de Saint-Viateur, les viateurs. Laurent avait d'abord regardez du côté des Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique. Il était attiré vers les missions. Mais son conseiller spirituel lui avait précisé que l'éclair de Saint-Viateur aussi allait en pays étranger. Alors il a fait confiance à son conseiller, son idéal de vie missionnaire s'est inscrit dans la vocation des viatoriens, comme on dit. Son idéal missionnaire, Laurent l'avait nourri en lisant des biographies célèbres qu'on lisait dans ma jeunesse. Je me souviens, la vie du père Pro, décrit par le père Antonio Dragon, un jésuite des martyrs de Calais au Mexique, ou encore le père Damien, dont je vous ai déjà parlé longuement, lépreux avec les lépreux. Alors Laurent Pilon avait le goût de se donner, même d'être martyr. Hein. Il y en a qui ont prétendu ça. Et pourquoi pas, les jeunes à l'époque, et encore aujourd'hui. Hein. Alors une fois passés les examens du baccalauréat SR, bien les 10 jeunes là, qui veulent entrer chez les Saint-Viateur se rendent au noviciat de Joliette. 12 mois pour faire l'apprentissage de la vie commune, un régime communautaire qui n'est pas facile tous les jours. Mais c'est un lieu privilégié de conversion. Au noviciat, on se convertit vraiment. J'ai fait, moi, un noviciat. Je sais ce que c'est. On se convertit vraiment à l'Évangile. Hein? On fait grandir ensemble, tous les novices, là, ce que l'on sème de fraternité dans nos cœurs. Hein? On apprend aussi à aimer Dieu, à connaître son amour. C'est un long entraînement pour sans cesse réapprendre, à dépasser son égoïsme. Car des jeunes, malgré tout, c'est égoïste, mais ils sont généreux. Alors ils accueillent les différences aussi, parce que les gens ne sont pas pareils, les novices sont différents, puis on apprend à pardonner. Alors sous la conduite d'un maître spirituel, le novice Laurent Pilon apprend que sa vie religieuse, c'est la manière concrète pour répondre à l'amour, pour se donner à Dieu. Et au cours de ce travail de transformation intérieure, il y a évidemment le danger de verser dans l'excès. Alors pour éviter ça, bien, le régime du noviciat comporte certaines occasions de détente. La détente préférée de Laurent Pilon, c'est le bricolage. Et comme il avait une certaine habileté au maniement du rabot, ben ça donne à des travaux d'entretien. Et dans ce temps-là, il y avait le cimetière de la communauté situé à 2 pas du noviciat et chaque tombe était identifiée par une simple croix de bois. Et c'était l'affaire des novices, Laurent Pilon et Claude, de remplacer les croix avariées. Et en 1935, il émet ses premiers vœux. À cette occasion, mes parents sont venus présenter à Laurent un nouveau petit frère, le bébé Jacques, qui n'a que 6 mois, et en voyant sa mère venir à lui avec un petit bébé dans ses bras, Laurent Pilon s'est écrié « Ah, voici quelqu'un que je ne connaissais pas encore. » Mais non, il n'a pas connu son petit frère. Du noviciat, donc notre jeune prophète passe au Scholastica Saint-Charles, il fait 5 années d'études, qui le mène à la licence en théologie. Certains professeurs du grand séminaire supervisent l'enseignement à Joliette, parce que c'est là qu'on octroie la licence, elle vient de la faculté de théologie de l'Université de Montréal, ça prend des professeurs du grand séminaire, et au Scholastica, ben, les étudiants s'initient au dogme, évidemment, à la morale, à l'écriture sainte, comme tous les jeunes qui se préparent au sacerdoce, hein, l'histoire de l'Église, le droit canonique, la liturgie, la spiritualité, puis il y a une bibliothèque aussi pour les aider, puis les étudiants adhèrent de façon facultative à des organisations internes, comme le cercle de rayonnement sacerdotal qui existait dans ce temps-là, et je me souviens, le cercle missionnaire. Alors, il entre là, et ça lui permet de s'épanouir petit à petit, et nous verrons tout à l'heure ce qui va arriver au père Laurent Pilon. Donc, après 10 mois d'application à l'étude de la théologie, les scolastiques, comme Laurent Pilon, sont bien contents de se rendre au camp des clercs Saint-Viateur au lac des Îles à Saint-Émile-de-Montcalm pour se détendre un peu et refaire un peu leur santé. Et Laurent Pilon s'est amusé dans le bois, il aimait beaucoup les arbres et la nature, il a tracé des sentiers pour les marcheurs du soir, il aimait beaucoup ça. Les scolastiques de ce temps-là se souviennent que Laurent Pilon avait découvert au bord de la montagne une sorte de glaise sablonneuse qui, en durcissant, devenait comme un macadam. Alors il empavait ses sentiers. C'était un travailleur, hein? Et des connaisseurs ont baptisé cette glaise du nom de Pilonex en l'honneur de Laurent Pilon. Une autre activité de vacances que le père Laurent Pilon aimait bien, c'était d'accompagner pendant quelques semaines troupes scouts de la paroisse du Christ-Roi. Les scouts de ce temps-là se souviennent encore. Il doit y en avoir qui m'écoutent peut-être. Et les années de préparation au sacerdoce passent vite. Au terme de sa 4e année de théologie, Laurent a été ordonné prêtre, un idéal de jeunesse enfin réalisé dans l'âge adulte. Il était très, très heureux. Et sitôt ordonné, le père Pilon reçoit son obédience pour les missions de Mandchourie, en Chine. Et le départ est prévu pour l'automne 1940. Deux confrères se joindront à lui. Les frères Gérard Michaud et Alfred Pion, P-I-O-N. Pour situer l'activité donc de Laurent en Chine, il faut faire une brève rétrospective. Il faut se rappeler les circonstances qui ont amené les clercs de Saint-Viateur à s'engager dans une œuvre missionnaire de cette taille. Revenons alors vers les années 29-30, au moment de la crise. Au Québec, la Société des prêtres des missions étrangères, de Pontviaux, là, avait été mise sur pied depuis peu de temps. Et les clercs de Saint-Viateur avaient donné l'hospitalité à la Société des missions étrangères, qui était naissante. Une certaine parenté spirituelle s'est ainsi établie entre les deux communautés, une osmose un peu. Alors, il était donc tout à fait naturel que les supérieurs du temps pensent à jumeler leur action missionnaire avec celle des prêtres des missions étrangères. C'est posé pour eux alors la perspective de s'engager en pays étranger. L'année 1931 a marqué le centenaire de la fondation des clercs Saint-Viateur par Louis Kerb. Je vous ai déjà parlé un peu de lui. Alors, ça a été l'occasion de l'ouverture d'un champ d'apostolat en pays de mission. Et puis, à l'occasion du centenaire, on a songé à ça de façon de célébrer, quoi. Et effectivement, en 1931, les quatre premiers missionnaires canadiens se sont embarqués pour la Mandchourie, pour aller ouvrir des collèges, puis pour évangéliser, en collaboration avec les prêtres des missions étrangères dans la préfecture apostolique de Zipinkai. Alors, au mois d'août 1945, revenant en 1945, le Japon capitule, donc. Oh, pardon. Je suis distrait. Dans la décade qui a suivi, une quinzaine de confrères sont allés rejoindre les pionniers. Et puis, et très bientôt, dans la ville épiscopale de Sipinkai, il y a un collège viatorien qui a été érigé sous le nom de Oriens High School. C'est là même que le père Laurent Pilon est arrivé en octobre 1940 en compagnie d'un groupe de prêtres des missions étrangères. Devant le départ de Montréal, c'était fait dans un climat d'hésitation, d'incertitude, c'est la guerre. Le jour même du départ, le conseil des prêtres des missions étrangères s'était réuni en séance spéciale sous la présidence de l'archevêque de Montréal, Mgr Joseph Charbonneau, dont je vous parlerai sans doute un jour. Alors ils partent pas, c'est un dilemme. Il y a des rumeurs de guerre qui étaient perçues du côté du Japon, puis en effet, ça va arriver. Parce que le Japon cherchait à étendre son empire en Asie, puis Mgr Charbonneau a prononcé finalement le mot décisif, partez. Et un an à peine s'est écoulé, puis la Mandchourie est envahie par les Japonais qui ont déclaré la guerre aux puissances alliées. Alors les missionnaires québécois, canadiens, devenant par le fait même des ennemis, ont été confinés à l'internement, avec les missionnaires belges, hollandais et américains. Ils étaient 125 missionnaires, entassés dans le petit séminaire de Sipinkai. C'est une maison construite pour une soixantaine d'enfants. Ça va servir de camp de concentration pendant 4 ans. Alors, notre jeune Laurent Pilon a une drôle de carrière de missionnaire, étrange. Et ces internés ont dû se familiariser, là, avoir des geôliers en armes qui les épient sans cesse. Mais il faut s'appliquer à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Alors, pour contrer la solitude, le désœuvrement, on organise dans ces murs du petit séminaire où ils sont enfermés des activités qui permettent de se distraire un peu. Et quelques pères plus savants ont offert à leurs confrères le recyclage en théologie puis des cours de langue. Pour sa part, le père Pilon, que l'on savait attentif à la liturgie, a été chargé par ses confrères, qui le souhaitaient, d'observer leur façon de célébrer la messe. Comme j'aimerais que l'on fasse ça encore aujourd'hui pour essayer d'aider certains prêtres qui ont pris de mauvaises habitudes à l'autel. Les observer et les aider, on devrait faire ça dans les communautés. Leur demander en particulier d'aller moins vite, de prier moins rapidement, pour que nous puissions nous unir à leurs prières comme pour le Notre Père. En ce temps-là, les rites de célébration étaient multiples. La routine aidant, certains prêtres torturaient un peu les gestes rituels, comme ça se fait encore aujourd'hui. Et le Père Laurent Pilon suggérait des améliorations susceptibles de rendre la célébration plus priante, plus intérieure. Et la conviction du Père Pilon était bien ancrée au fait qu'à la messe, la prière la plus parlante, ce sont peut-être les gestes du célébrant. Quand ces gestes-là sont bien faits, ils expriment une réelle liturgie intérieure. 4 années d'internement, c'est bien long. Alors les santé sont peu à peu affectées, il y a des rationnements de nourriture, puis il fait froid aussi quand arrive l'automne, et comment se défendre des refroidissements. Alors, maladies qui apparaissent, la jaunisse, le zona, la gastrite, le typhus, des fièvres. Il y a 2 décès qui surviennent. En juillet 1943, Mgr Émilien Mas, préfet apostolique de Lintung, est emporté à la suite d'une fièvre maligne. La tombe de Mgr Mas était à peine fermée que le frère Ligori des écoles chrétiennes mourait à son tour. Alors, il se demande combien de temps va durer tout ça. Les communications avec le Canada sont impossibles. Grande inquiétude des parents des missionnaires ici. Et puis, on fait des démarches auprès du ministère canadien des Affaires extérieures, mais sans résultat. Et puis, même en prison, les nouvelles parviennent à s'infiltrer, sous forme de rumeurs. Et puis, on chuchote de bouche à oreille que les Japonais perdent du terrain ici et là. On remarque d'ailleurs que les geôliers deviennent de plus en plus nerveux, ces Japonais. Une question de semaine, peut-être 2 jours, ce sera la liberté. C'est leur rêve. Et au mois d'août 1945, le Japon capitule, renonce à ses prétentions d'expansion. Et comme les Russes veulent avoir leur part du gâteau, ils s'amènent en vitesse et ce sont eux qui libèrent les internés de Shipingai. Alors, les missionnaires accueillent leurs sauveteurs en leur offrant de bonnes rasades, chose étrange, d'un alcool imbuvable que les soldats ingurgitent sans sourciller. Dès les premiers jours de libération, des mesures sont prises pour le rapatriement des confrères malades ou vulnérables. Quelques-uns choisissent de rester sur place, dont le père Laurent Pilon. Après quelques mois de liberté, les tracasseries, la guerre civile recommence. Et de 46 à 53, la Chine nationaliste cède peu à peu du terrain aux armées de Mao Tse-tung, vous vous souvenez, ce qui ne favorise pas l'activité des missionnaires. C'est Mao Tse-tung, le grand dirigeant des communistes, qui s'avance. Mais à l'exemple de Saint-Paul, qui bravait toutes sortes de dangers pour répandre la bonne nouvelle, mais les quelques missionnaires qui sont restés font face aux dangers. Ils tâchent de se faire présent auprès des chrétiens dispersés ici et là. Et dans un rapport sur la mission de Shipingai, le père Baron, supérieur des prêtres des missions étrangères, rend au père Laurent l'hommage suivant, le père Laurent Pilon, curé successivement de Shipingai et à Kungchuling, a passé là où une armée ne passerait pas. Pendant la période la plus critique, il a multiplié les visites un peu partout, ne se souciant guère des dangers. Et nous sommes rendus au moment où on dit de lui qu'il a multiplié les visites un peu partout dans un moment difficile, alors que Mao Tse-tung s'avance et puis se soucie guère des dangers. C'est un jeune prêtre courageux. Et alors, il est suivi à la trace, comme les autres missionnaires, dans ses activités pastorales. Les missionnaires se rendent compte que peu à peu, l'étau des troupes communistes se resserre autour d'eux. Il y a des soldats qui viennent écouter les sermons à l'église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils notent les sermons que tiennent les prêtres. Et au procès, qui va lui valoir l'expulsion, le père Laurent Pilon va entendre réciter des passages entiers de ses sermons, en chinois évidemment. Et plus tard, avec humour, il va raconter J'aurais voulu pouvoir débiter mes sermons aussi bien que le juge. Ils étaient splendides. Alors, les enquêtes tracassières se répètent, puis là, les inspections de toutes sortes, c'est intempestif, et on les laisse pas tranquilles. La participation obligatoire à des corvées publiques aussi, comme la chasse aux microbes et la guerre aux rats, dont il fallait rapporter les queues aux contrôleurs, vous vous imaginez. Et à ce propos, le père Laurent Pilon racontait, on était devenu assez habile pour fabriquer des queues en tortillant les quatre pattes du rat et atteindre ainsi le quota fixé. Et les armées de Mao Tse-tung se rapprochent de plus en plus. Bientôt, la ville de Chipinghai est encerclée. Et le 13 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 13 mars 1948, à 2 heures de la nuit, le collège d'aviateurs est bombardé. Il y a donc près de 50 ans. Tandis que les professeurs et les étudiants se réfugient au sous-sol avec les missionnaires, les bombes détruisent les étages. Ressortis de là, comme par miracle, trois clercs de Saint-Viateur vont demeurer à Chipinghai avec Monseigneur Lapierre. Comme un bon berger de l'Évangile, lui, Monseigneur Lapierre, il a refusé d'abandonner son troupeau. Il avait donc une belle tête. Il m'a toujours impressionné, cet évêque. Et c'est à la suite de la destruction du collège que les clercs de Saint-Viateur et l'évêque ont été contraints, pendant plusieurs jours, à une marche épuisante dans l'eau presque tout le temps, puisqu'on était à l'époque des pluies. Et le père Pilon note dans ses récits, « J'ai dû porter Monseigneur Lapierre sur mes épaules pour passer des ruisseaux. » Quelque temps après, âgé et malade, Monseigneur Lapierre est mort, assisté du père Laurent Pilon, son fidèle compagnon, dans la grande tempête de cette guerre. Quand il s'agit de souffrir, le cœur de l'homme est grand, a déjà écrit Supervielle. L'orage accumulé sur la tête de nos clercs de Saint-Viateur a éclaté à l'automne 1953. C'était bref, mais violent. Dans une revue faite d'éducation de février 54, le père Pilon a raconté par le menu son procès puis l'expulsion qui s'en est suivie. Voici en raccourci le déroulement de l'affaire. Le père Laurent Pilon vient de célébrer la messe. Il s'apprête à faire son chemin de croix. Il y a des bruits de bottes dans l'église et des policiers s'amènent. Liu Yinchai, c'est son nom en chinois. Il réplique, c'est moi. Et on lui dit très rudement, suivez-nous. Au tribunal, l'accusation est formulée rapidement. « Liu Yinchai, tu as organisé la Légion de Marie, tu as prêché contre le gouvernement et tu as une foule d'autres crimes à ton dossier. » Alors pendant 5 jours, le même scénario va se dérouler. Devant les juges, on répète les mêmes accusations, les mêmes questions. Puis à la fin de chaque séance, la lecture du procès-verbal dans lequel les paroles de l'accusé sont falsifiées, évidemment. Il dit, d'ailleurs dans ses récits, le père Pilon, « On a changé toutes mes réponses. » À la fin de cette comédie, le prononcé de la sentence. Liu Yinchai, le gouvernement te donne 48 heures pour quitter la Chine. En racontant cet instant pathétique, le père Laurent Pilon a écrit, après 4 jours d'angoisse, avec la perspective d'une mort violente ou d'un séjour prolongé en prison, voilà donc le sort qu'on m'impose. Bénin, en un sens, car c'est la liberté qu'on me donne. Mais c'est un sort cruel, d'autre part, car c'est la ruine de mon travail en Chine. Alors le camion des criminels est là. On fait monter Liu Yinchai, le père Laurent Pilon, ainsi que ses deux confrères, Pinault et Bourgo, qui, sans être sous le coup d'une expulsion, sont gentiment invités à partir. De trajet interminable en train sous la garde des policiers, puis ensuite un embarquement sur un cargo anglais via Hong Kong. Les soldats font escorte tant que le bateau navigue dans les eaux territoriales chinoises. À Hong Kong, c'est l'accueil chez les pères de Mary Knoll, hein, les missionnaires américains. Mary Knoll. Et on retrouve des missionnaires expulsés auparavant. C'est la fête, vive la liberté. Le retour à Montréal va se faire à petite journée, puis le 29 décembre 1953, la gare Windsor de Montréal. Vous vous souvenez de la gare Windsor, hein? Les familles en liesse accueillent leurs missionnaires, et le père Laurent, après 13 ans d'absence, déclare « La plus grande partie de mes années en Chine, eh bien, je les ai passées en prison. » Alors, il y a une année de répit. Le père Laurent Pilon va être appelé a relevé un nouveau défi. En 1955, le père général Pagé procède à l'élection de deux vice-provinces, l'érection de deux vice-provinces, le Saint-Laurent et l'Abitibi. Alors, comme premier supérieur vice-provincial du Saint-Laurent, le père Raymond Valois est désigné, mais il est maître des novices à Rigaud. Alors, il faut de toute urgence lui trouver un remplaçant. Et vous devinez, hein, appelé à Coteau-du-Lac à la résidence générale, le père Laurent Pilon s'entend dire, vous êtes nommé maître des novices. C'est une charge énorme, hein, et vous entrez en fonction immédiatement. Une nomination improvisée, s'il en est, ça va faire l'objet de certaines remarques justifiées, par exemple. On dit que le confrère est nommé à cette fonction-là pour la simple raison qu'il est libre à ce moment-là, et c'est tout. Petite méchanceté. C'était l'époque où on se souciait peu de donner la compétence nécessaire à qui on confiait une charge. Heureusement, les politiques de nomination se sont bonifiées par la suite dans l'Église, et particulièrement chez les clercs de Saint-Viateur. Et le père Pilon avait donc un défi de taille à relever. Il s'est mis à la tâche avec une bonne volonté. Et il disait à ses intimes, « Je n'ai pas étudié ma nouvelle tâche dans les gros livres, comme maître des novices, mais je vais essayer de donner aux novices ce que j'ai dans mon cœur. » Et pendant les 4 années de son mandat, le père a eu à cœur de sensibiliser les novices à des liturgies priantes. Quel bon maître des novices, hein? Particulièrement dans sa façon de célébrer la messe, le père Laurent Pilon a été pour les novices une inspiration. Une inspiration. C'est don important, je ne saurais jamais assez insister pour que nos prêtres nous inspirent à l'autel. La messe n'est pas un rite qu'on exécute, mais c'est un mystère que l'on célèbre. C'est ce qu'il disait, Laurent Pilon. Et à propos de célébrations expédiées ou banalisées, c'est Jean Guiton qui a écrit ce qui suit. « J'aime voir un prêtre dire sa messe et la bien dire. J'en ai vu peu. » Imaginez Jean-Guy Pilon qui va à messe tous les jours. « J'en ai vu peu. Je pense parfois, est-ce que cet homme croit ce qu'il fait? » Il me pose souvent la question quand je vais au Jésus devant un prêtre qui dit la messe. Est-ce qu'il croit ce qu'il fait? On n'a absolument pas l'impression. Que c'est triste. La beauté du mystère célébré dans la messe réside dans les gestes du célébrant suivant, le baiser à l'autel, les bras étendus, la manière de prendre l'hostie et le calice. Laurent Pilon insistait là-dessus. La beauté extérieure de la messe est là, dans les mains d'un homme qui prie, d'un priant, puis sur le visage d'un adorateur. Un prêtre est un adorateur. C'est un homme de plein air, le père Pilon. Il aimait bien donner son coup d'épaule aux travaux d'embellissement de la propriété extérieure. Un novice de ce temps-là, il y en avait des novices, hein, il y avait 24 novices. Mais un novice de ce temps-là, Bernard Riopel, était son homme de bon conseil. Bernard Riopel était plus âgé que la plupart des novices, il avait acquis une bonne expérience des travaux durs. Puis le père maître des novices, Laurent Pilon, appréciait d'être secondé par un expert. Et vers la fin de son mandat, le père Pilon a éprouvé des ennuis de santé. Deux médecins spécialistes, consultés, ont arrivé à la même suggestion. Faites au père provincial, à savoir de confier au père une besogne moins stressante. 24 novices, c'est pas des farces. On peut deviner, en effet, le stress que peut ressentir un homme nerveux intérieurement quand la maison était remplie d'aspirants, de postulants, de novices. Durant l'été 59, par exemple, avec humour, il écrit au père provincial, « Nous sommes 71 dans la maison, c'est beau à voir. » Et c'était éprouvant pour lui de quitter le noviciat. Quelques jours avant de partir, il confiait à un intime, « Il m'en coûte beaucoup. Il m'en coûte beaucoup de quitter ces lieux. Mais la volonté de Dieu, fiat. » Son successeur, le père Élie Charlebois, exprime le désir de passer quelques jours avec Laurent Pilon, histoire de s'initier au secret de cette nouvelle tâche de maître des novices. Le père Pilon acquiesce, et dans une lettre au père de Blois, au père Charlebois, plutôt, il écrivait, « Je veux bien aider le bon père Élie. » Non, c'est au père de Blois qu'il a écrit. Il dit, « Je veux bien aider le bon père Élie Charlebois, car je sais que cela m'a tellement manqué quand je suis arrivé ici. » En des maux de tête des premiers jours. Je n'ai eu alors que 2 jours avec le père Valois, qui m'a surtout expliqué la façon de tailler les arbres. Ils ont poussé tout seuls depuis ce temps-là. En quittant le noviciat, le père Laurent Pilon reçoit une nouvelle obédience pour la paroisse Saint-Viateur d'Outremont à titre de vicaire. Et là, c'est une nouvelle pierre blanche, hein, faite du ministère paroissial de 1960 à 63 et de 75 à 82. C'est une nouvelle pierre blanche sur la route de Laurent Pilon, le ministère paroissial, donc à Saint-Viateur d'Outremont. Et puis, le ministère que le père Pilon aimait le plus, c'était de rencontrer les gens, soit au bureau, soit à l'occasion des visites de paroisse, car on passait de maison à maison dans ce temps-là à Outremont, et on visitait les gens. Les prêtres nous visitaient dans nos maisons. Les prêtres se partageaient les différents quartiers. Le père Pilon relevait les rues sans grand renom. Il se sentait à l'aise et bien accueilli partout. Même les juifs de la rue Hutchison se disaient très honorés que le prêtre catholique s'arrête chez eux pour les saluer. Et le père Pilon est resté donc à Saint-Viateur-d'Outremont durant 3 ans. Puis, après une dizaine d'années rattachées au bureau des missions, il va revenir au ministère paroissial à Sainte-Madeleine-de-Rigaud cette fois, où il va être prêtre pendant 7 ans. Là encore, le père Laurent Pilon s'est approché des gens pour devenir l'ami, le confident. On allait à lui. Avec respect et confiance, c'était un prêtre de prière, un prêtre intérieur et un vrai. Ils étaient assurés de sa discrétion, puis ils aimaient ses conseils. Il s'intéressait, lui, à toutes les catégories de gens, les jeunes, les personnes âgées. Il aimait se rendre aux écoles, puis parler aux enfants. Il les invitait à servir la messe, et même à venir assister aux cérémonies du baptême le dimanche après-midi. Et d'autre part, auprès des adultes, le père Pilon a exercé une bienfaisante influence. Il était ponctuel à se rendre au confessionnal, avant les messes, pour offrir le pardon de Dieu. Et ses homélies, préparées avec soin, apportaient des bons commentaires de la parole de Dieu. Les gens ils appréciaient. Puis, il laissait à chacun le soin de faire les applications convenables. Il s'occupait des malades aussi, les personnes âgées qui bénéficiaient de sa sollicitude. On le voyait dans les rues de la ville, même les chemins de campagne, à pied. Il allait rejoindre les gens pour leur donner et leur offrir sa présence de prêtre. À Rigaud, le père Pilon a laissé le souvenir d'un prêtre dévoué, surtout auprès des gens simples et démunis. C'est un prêtre sans prétention, un peu énigmatique, mais toujours généreux. Et entre ses stages en paroisse, il s'est écoulé 10 ans, 1963-1973, durant lesquels il a été rattaché au bureau des missions. C'est le père Edmond Telmos qui raconte ses activités au service des missionnaires. Le bureau des missions, c'est un organisme qui est chargé de l'animation spirituelle du personnel missionnaire, puis aussi de l'organisation matérielle, le Japon, Formose, l'Afrique, le Chili, le Pérou, la Colombie, l'Haïti. Alors il a travaillé d'arrache-pied pour aider et envoyer des caisses et de faire toutes sortes de choses pour servir les missions. Revenons au père Pilon, Laurent Pilon, qui faisait partie donc du bureau des missions des clercs de Saint-Viateur de 1963-1973. Et pendant 10 ans, bien, ses activités étaient très disparates. Évidemment, il prêchait dans toutes sortes de paroisses à travers le Québec. Mais il fallait aussi qu'il participe aux travaux d'emballage du matériel destiné aux missions, qui s'entassait dans l'entrepôt. Il a fait des caisses et des caisses. L'expédition se faisait par l'entremise du Centre du Livre pour Outre-mer. Théoriquement, ce centre se chargeait de l'expédition de livres, mais avec la complicité d'une sœur Denise Brouard, des sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, dont il a été question ce matin, ou tout à l'heure, à l'émission qui a précédé la mienne, il est arrivé souvent que l'on triche un peu et que des objets autres que des livres prennent place dans les caisses. On a poussé l'audace qu'a expédié la grosse cloche du couvent des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie de Saint-Lin vers la communauté Sainte-Marie de Port-au-Prince. Il faut dire, pour déculpabiliser les fraudeurs, que les autorités du Centre du Livre n'étaient pas dupes. Elles fermaient les yeux. Au bureau des missions, le père Laurent Pilon aimait bien accueillir les missionnaires de passage, mais causait avec eux. Ça alimentait la revue Mission Saint-Viateur, dont il avait la charge. Dans ses temps libres, le père Laurent Pilon a monté un petit musée dans une pièce adjacente. Ce musée réunissait dans une même montre des objets qui venaient de différents pays. C'est une petite collection qui a augmenté. Le plus grand bonheur du père Laurent Pilon au cours de ces années, c'était un voyage en Extrême-Orient qu'il a eu l'occasion de faire en compagnie du frère Lucien Huot en 1966. Et puis, Le père Laurent a eu conscience de régler le vieux contentieux qui lui avait valu l'expulsion de Chine. Pendant 2 mois, il a visité les œuvres des clercs de Saint-Viateur de Formose et du Japon. Il a pu s'entretenir avec les missionnaires. Grâce à leur bienveillance, il a beaucoup voyagé. Chaque soir, il a confié à son journal personnel les activités de la journée. Et en lisant ce journal, on perçoit ici et là des allusions assez nostalgiques au temps où lui-même était engagé en Orient. Il avait une âme de missionnaire. C'est pas des regrets, mais plutôt, disons, des vues de foi vers ce Dieu qui écrit droit avec des lignes courbes, comme il écrit. En 1967, c'est l'année de l'Expo. L'exposition internationale à Montréal. Laurent fait de l'animation au pavillon de l'Asie, à Terre des Hommes. Avec des visiteurs d'Extrême-Orient, il noue des amitiés profondes. Ils étaient ravis d'être accueillis par quelqu'un qui connaissait et aimait leur pays. Mais qui était donc le Laurent Pilon? À l'occasion du jubilé d'or de vie religieuse du père Pilon, le père Robert Lalonde a tracé de lui un portrait qui est très beau. Prenons notre temps, nous sommes pressés, a-t-il coutume de dire à ceux chez qui il soupçonne quelques mouvements d'impatience fiévreuse. Prenons notre temps, nous sommes pressés. Cette parole reflète en quelque sorte le caractère du père Pilon, dont les gestes sont toujours posés après réflexion et discernement. Le vieux, comme le désignent encore ses intimes, une appellation qui remonte au temps de collège et qui signale la sagesse qui l'habite. Un surnom qu'il ne déteste pas, mais qu'il accueille avec un bon sourire. De son long séjour en Chine, il a gardé, comme une seconde nature, un certain mystère personnel, pas facile à percer. Laurent Pilon pratique à merveille la politesse chinoise, qui ne connaît pas le mot « non », un mot auquel il substitue habilement un flot de mots neutres qui laisse à l'interlocuteur le soin de deviner une opinion négative. Le père Laurent Pilon figure dans le cortège de ces doux, dont l'Évangile nous dit qu'ils posséderont la terre. La première terre qu'il possède bien, c'est celle de sa personne. La douceur du père Laurent Pilon est le fruit de sa maîtrise personnelle. Si les choses ne marchent pas à son goût, quelques petits signes extérieurs trahissent une impatience contenue. Par exemple, les novices de ce temps-là se rappellent quand la barbe au menton se raidissait un peu à l'horizontale, on n'avait pas besoin d'un discours pour comprendre. Le père Pilon sait vivre à petit bruit, selon une recommandation du père Kerb, fondateur des clercs de Saint-Viateur. Sa régularité d'horloge, loin de s'assimiler à la routine, exprime plutôt ses profondes convictions. L'impression que l'on garde de lui pour longtemps, c'est très beau ça, il est un priant. Le souligner n'est pas une mince éloge. Pour ses 50 ans d'options en faveur du royaume, bravo Laurent et louange à Dieu. Alors ce texte, à l'occasion d'un... paru dans l'album Souvenir du Jubilé en 1985, est vraiment bien sympathique. C'est une sagesse populaire qui affirme que des morts, on ne dit que du bien. C'est ce qu'a fait Robert Lalonde. Tout en respectant l'adage populaire, il convient, pour rendre plus véridique son profil, de relever, dans le comportement de Laurent Pilon, certaines attitudes intéressantes. Tantôt il était abondant en parole, tantôt très discret. On s'est demandé à quoi ça tenait. Qui sait? Le père Laurent avait un caractère fort. Certains ont tenté de changer cet homme, ils se sont heurtés à un mur. S'il y a là un défaut de comportement, qu'on se rappelle la parole du fameux Joubert, là, qui a écrit des pensées, « Tout n'est pas saint, même chez les saints. » À table, vu son estomac délabré, il se contentait de peu. Sobre dans la nourriture, il était aussi dans la façon de se vêtir. Et avec sa barbiche de mandarin, il affichait un air paternel. Il avait une bonhomie sympathique. Nous en sommes à repérer le dernier caillou blanc qui a jalonné l'itinéraire de Laurent Pilon. L'ultime étape, c'est la terrible maladie d'Alzheimer qui l'a privé de tous ses moyens. Les 10 années qu'il a passées à l'infirmerie communautaire de Joliette ont été l'équivalent d'un long martyre à petit feu. Il fut quand même un malade attachant. au témoignage des infirmiers et infirmières qui y ont prodigué leurs soins. Qu'ils trouvent ici, quand je leur parle, des remerciements, je m'adresse à tous les infirmiers et infirmières aussi qui ont soigné ma mère autrefois, et tous ces gens si dévoués. Le départ de Père Laurent Pilon a été paisible. Jésus est venu le moissonner, comme on dit. Il a caressé Laurent Pilon, c'est sûr, son prêtre, qui l'accueillit. Laurent Pilon est mort, funérailles simples et priantes. Il a été inhumé à l'ombre des grands arbres qu'il aimait tant à Rigaud, dans ce pays qu'il chérissait. Les clercs de Saint-Viateur sont encore relativement nombreux à travers le monde. Il y a encore peut-être 375 prêtres, de nombreux frères, un évêque. Ils sont répandus dans divers pays. Nous les saluons, eux qui sont toujours à la paroisse Saint-Viateur à Outremont.